Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
On est petit, quoi, quand on arrive devant le palais, on se sent, on se dit, mais c'est pas possible.
Mon père, il m'avait dit que c'était un endroit fantastique qui avait été construit par un facteur qui ramassait les cailloux sur sa tournée et qu'il construisait dans son jardin un palais fantastique, ce qui est effectivement ce qu'on raconte tous.
Ouais, sans machine, sans camion,
sans rien du tout, juste avec, en portant des pierres.
Voilà, cette obsession, toute une vie, 33 ans, c'est... Oui, c'est phénoménal, quoi, c'est incroyable, incroyable.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary. Bonjour à tous, c'est un curieux palais situé dans le village de Haute-Rive, dans le sud-est de la France, au cœur de la Drôme des Collines, qui depuis plus d'un siècle fait parler de lui. À son sujet, les mots manquent, ou abondent au contraire. Avec ses innombrables sculptures évoquant la nature, ses tours de 12 mètres de haut, ses géants ou animaux de pierre, certains lui trouvent des faux airs d'Angkor Wat, le fameux temple du Cambodge. D'autres y voient un chef-d'œuvre d'art brut ou naïf. Car le palais idéal, c'est son nom, est l'œuvre d'un seul homme. Un homme du peuple et de la terre, autodidacte, incompris de son vivant, qui façonnera pierre après pierre son rêve. Achevé en 1912, ce monument, unique au monde, sans chambre ni toit, est vite devenu une curiosité touristique, une terre de pèlerinage des surréalistes aussi, et un terrain de jeu des enfants du village. Aujourd'hui encore, cet étonnant palais inspire et appelle aux rêveries les plus éveillées. Et Sarah Lefebvre nous y emmène cette semaine. Âme sensible, ne vous abstenez pas. Au contraire, tendez l'oreille. Car ce monument, truffé de messages et de symboles, parle. Et à travers lui, son auteur, le génial et modeste facteur Cheval.
Fils de paysan, paysan, je veux vivre et mourir. Pour prouver que dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie et d'énergie. 29 ans, je suis resté facteur rural. Le travail fait ma gloire et l'honneur mon seul bonheur. À présent, voici mon étrange histoire, où le songe est devenu, 40 ans après, une réalité.
Il est 10 heures, un dimanche matin d'hiver, et le soleil donne sur la façade est. À l'entrée du palais, on voit les trois géants, César, Vercingétorix et Archimède sur la gauche. Une entrée qui ressemblerait à un temple à droite avec des grandes colonnes, un pavillon, un petit génie au-dessus, au sommet de ce pavillon. Afin d'éviter les accidents, les parents sont priés de surveiller leurs enfants.
Défense. De rien toucher.
Moi je le connais depuis très très longtemps. Je le connais depuis 2 ans. J'ai 8 ans et demi et lui il a 8 ans et demi aussi.
Moi je sais déjà qu'il a parcouru un très très long chemin. 30 km par jour. À pied. Avec sa brouette en partant des pierres.
Il a construit ça avec des pierres et il a...
Aussi avec des galets.
Oui.
Parce que pas que des pierres sinon après... Voilà.
Et après, il a fait des animaux.
Tout en haut. Il y a un palmier, il y a des épines et tout, il y a des espèces d'arbres morts. Un autre palmier, il y a des coquillages, il y a des espèces d'animaux singes et tout. Caïmans, serpents, et puis il y a
crocodile.
Même... Il y a crocodile, lion. Il y a lion, il y a tigre, il y a...
Corbeau.
Et il y a aussi...
Le dernier, c'est renard, il me semble. Ou loup, avec. Ouais.
On a effectivement autant une faune qu'une flore assez étonnante. En plus, des choses qu'il ne connaît pas. Hein. On a tout un bestiaire dans le palais. Des éléphants, guépards, loutres... Plein d'animaux. Il n'a jamais vu un éléphant Haute-Rive à l'époque, il l'imagine, voilà. Frédéric Legros, donc je suis le directeur du palais idéal du facteur Cheval. Alors on se trouve face à la façade est. On indique vraiment à chaque fois l'orientation du palais parce qu'il est situé nord-sud, est-ouest et le facteur indique sur chaque façade, façade sud, côté ouest, enfin voilà. Et la façade est, c'est par là qu'il commence le palais. Alors, le palais est assez étonnant parce qu'il a un côté temple, il est fait de pierre avec des formes assez étranges que le facteur vient ensuite retravailler. Alors, il ne vient pas les sculpter, mais il vient rajouter de la chaux par-dessus, ce qui vient donner des formes. Et en fait, c'est une sorte d'accumulation de pierres rondes et de coquillages pour donner cet ensemble. Ça, ça vient quand même de quelque part. Si on regarde les maisons ici, elles ont cette chose qui est très locale. Hein. Ce sont des galets qui sont reliés par un lien.
Un enduit,
et qui viennent construire des murs comme ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans le palais idéal, hein. C'est une succession de formes comme ça, rondes ou étonnantes, qui viennent construire ce palais. Mais il y a aussi quelque chose d'assez rare et d'assez spontané, c'est qu'on a des palmiers qui poussent sur la façade, pas qui poussent puisqu'ils sont en chaud, mais que le facteur fait apparaître, les aloe vera et plein de petites tourelles comme ça qui se dégagent de la surface du palais. En fait, le facteur cheval, encore une fois, a cette idée géniale. Le béton armé n'est pas encore inventé à l'époque. Mais il a déjà l'idée de mettre des tiges en métal dans la chaux. Donc on a ce palmier qui vient surplomber le palais idéal. C'est soutenu par une tige de métal à l'intérieur et ce qui permet aussi pour lui de faire différents ornements en haut des colonnes et de nombreux détails comme ça. En fait, on ne le sait pas forcément, mais le facteur cheval, Ferdinand Cheval, avant de devenir facteur, avait été formé comme boulanger. Et il travaille comme boulanger à côté de Lyon et à Valence pendant quelques années. Et c'est très certainement ça qui l'amène à cette dextérité. En fait, ce maniement de la patte l'amène à une dextérité des mains et par moments, au final, ouais, le palais, on peut se rendre compte que c'est une sculpture de boulanger.
Alors, ce qui m'a impressionné, moi qui suis d'origine paysanne, c'est que cet homme n'avait rigoureusement aucune formation en maçonnerie ni en architecture, et pourtant il a fait une œuvre que l'on vient visiter de tous les points de la Terre, même du Japon.
Lucien, on est chez vous là, dans les hauteurs d'Hauterive, en plein milieu de la campagne et des collines de la Drôme. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ?
Voilà, je m'appelle Lucien Riban, j'ai fait une très modeste carrière d'instituteur, et dès l'âge de 11 ans, j'ai été infecté par le virus de l'histoire, si j'ose dire. Et bien entendu, quand je me suis fixé à Hauterive en 1997, ma première chose a été de me pencher sur le passé de la commune. Donc je suis allé fouiller dans les archives départementales, évidemment, pour être à peu près au courant de tout ce qui s'était passé entre 1879 et 1924.
Pourquoi 1879 ?
C'est l'époque où Ferdinand Cheval a posé la première pierre du palais idéal. Donc Ferdinand Cheval est né le 19 avril 1836 à Charmes-sur-l'Herbas. C'est un petit village qui se trouve à 15 km au sud-ouest de Hauterive. Et donc il est né dans une petite ferme, comme il y en avait à l'époque, voilà, quelques hectares de terre, et comme le dirait Jean Ferrat, deux chèvres et quelques moutons. Et voilà, une anémone et l'autre non. Alors comme on travaillait 9 mois sur 12, le problème à l'époque pour les enfants, c'était la scolarité. Et il allait à l'école uniquement les 3 mois d'hiver, quoi. Il pensait bien sûr prendre la succession de papa. Hélas, son frère Victor, qui vivait aussi à la ferme, donc après le décès de leurs parents, s'est marié avant lui. Et à l'époque, la règle était absolue. Le premier qui se mariait devenait le successeur des parents. Et donc voilà mon Ferdinand qui est obligé de quitter la ferme. Et il se demande ce qu'il va faire. Et puis un peu par hasard, ben il va devenir tout simplement garçon boulanger. Et puis un jour, il a atterri par hasard à Hauterive, dans une boulangerie évidemment, qui se trouvait de grande rue à Hauterive. Et là, il fait la connaissance d'une charmante jeune fille nommée Rosalie Revol. Ils se plaisent et ils se marient. Et là, Rosalie Revol aimerait bien que son époux change de métier, parce que bon, c'est très fatigant, le métier de garçon boulanger. Et comme elle est très liée avec le receveur des postes d'Hauterive, elle va faire des pieds et des mains pour le faire entrer dans les postes. Donc, merci Rosalie Revol. S'il était resté garçon boulanger, peut-être n'aurait-il pas eu le temps de consacrer autant de temps à construire son palais idéal. Et comme il l'a dit, lorsqu'il parcourait donc la Drôme des Collines avec son énorme sacoche sur le côté, il se mettait à rêver. Et il essayait d'imaginer comment s'étaient formées les collines, comment les rivières avaient creusé de si beaux sillons, des torrents, etc. Car je pense que Ferdinand Cheval, c'est d'abord un grand rêveur, que dis-je, un visionnaire.
Mon pied avait accroché un obstacle qui faillit me faire tomber. Je voulus savoir ce que c'était. C'était une pierre de forme si bizarre que je l'ai mise dans ma poche pour l'admirer à mon aise. Le lendemain, je suis repassé au même endroit. J'en ai encore retrouvé de plus belles. Je les ai assemblées sur place. J'en suis resté ravi. Je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, moi je ferai la maçonnerie et l'architecture. Voici mon rêve, à l'œuvre, me suis-je dit.
Et bien voilà, c'était la pierre d'achoppement. Et à partir de là, lui qui à l'époque ne possédait qu'une toute petite parcelle de terrain, eh bien il va imaginer simplement de faire, comme ça se faisait à l'époque, une rocaille. Parce qu'il avait dans la tête de faire monter l'eau du petit ruisseau qu'il coulait dans son jardin, et puis de la faire couler de vasque en vasque pour écouter, comme l'a dit le poète, la chanson de l'eau. Donc ça a été la première partie du palais, ça.
La pierre, ah moi je sais, je connais par cœur.
Moi aussi, c'est à cause de ça qu'il est tombé. Et puis après il a dit waouh, c'est super beau ou un truc comme ça. Et puis il l'a pris, il l'a déterré et puis il l'a pris. Moi je dis que c'est le cœur du palais. Elle ressemble à 4 tourbillons.
Pendant sa tournée, qui faisait au minimum 32 km, qu'il faisait à pied, puisque le chemin est trop escarpé pour le faire à vélo et trop accidenté pour ça. Et à partir du moment où il a découvert la pierre d'achoppement, il commence à ramasser des pierres. Alors des pierres qui ont des formes assez extraordinaires. Quand elles ne sont pas trop lourdes, il les met dans sa besace. Et le soir, après sa tournée, il repart avec sa brouette chercher les pierres pour venir construire ensuite le palais la nuit. Donc c'est en ça que sa brouette l'accompagne dans toute cette construction du palais. Elle repose ici.
Derrière une grille, bien au chaud.
Conservée, c'est un peu un reliquaire d'une certaine façon.
Une vieille brouette en bois et dessus il y a des sous, de la monnaie.
Est né depuis quelques années ce petit principe des visiteurs, certainement comme un porte-bonheur, j'imagine.
Normalement, c'est dans les fontaines qu'on fait ça.
Exactement. Alors, peut-être parce qu'on n'a pas de fontaine, c'est la brouette, mais voilà.
Pour arriver au but, il faut être têtu. Enfant de la chaumière, désespère pas. Un jour, pour toi aussi, le soleil brillera. Au charme du travail, les yeux se régalent, comme le gourmet auprès d'un bon mets. Si tu veux de l'or, fouille dans tes coudes, tu trouveras un trésor. Travaille avec opiniâtreté.
C'est vrai qu'il y a en fait partout autour du bâtiment des œuvres inscrites par le facteur. Et au-dessus de la brouette, on en a beaucoup là. Rappelle-toi que vouloir, c'est pouvoir.
Sur toutes les phrases qu'il y a dans le palais, il y a différentes sources. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui proviennent de la Bible, il y a des phrases qui proviennent du Livre d'Or, mais il y a aussi un magazine qui s'appelle Le Magasin Pittoresque. Et Le Magasin Pittoresque, c'est des récits de voyage, c'est des récits historiques et qui sont tout accompagnés de gravures. Et c'est au travers de ces gravures qu'il découvre le monde. Donc, la maison carrée d'Alger, les temples hindous, le phare de Cordouan, enfin plein de références comme ça, on les retrouve dans le Magasin Pittoresque. De la même façon, il y a une phrase de Goethe qui est écrite sur ce qui aurait dû être sa tombe. Cette phrase de Goethe, elle avait été écrite dans le Magasin Pittoresque et le facteur vient la reproduire sur le palais. Mais il y a aussi des phrases qui lui sont plus personnelles et qui sont presque des statements, hein, qui sont des manifestes, vraiment. Il y a beaucoup de choses sur la volonté et sur la volonté hein, et sur une certaine idée du courage.
ce qu'il a écrit un peu partout sur son palais, c'est sa fierté d'être un paysan. Je suis Gilles Soubigou, je suis conservateur du patrimoine et conseiller à l'action culturelle patrimoniale à la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes et directeur de la publication Au Trive, le palais idéal du facteur cheval.
Donc vous avez passé 3 années là à faire des recherches, à rencontrer beaucoup de gens et à synthétiser toutes les informations au sujet du facteur. Et ses ambitions aussi, moi je me pose cette question, qu'est-ce qu'il voulait ?
Il voulait revendiquer, manifester, montrer qu'un paysan, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, pouvait être aussi un créateur. Et ça c'est vraiment quelque chose qui était très très important pour lui.
Et c'était rare aussi, parce qu'on n'en avait pas le temps.
C'était rare parce qu'on n'en avait pas le temps, il s'est donné le temps. On lui a donné le temps, il était marié, il avait des enfants, il faut avoir une pensée pour l'épouse du facteur cheval qui a fait tourner la maison, qui s'est occupée des enfants, qui les a fait grandir, et pendant que le facteur construisait son palais, essentiellement de nuit, comme il l'a écrit, et c'était vrai, puisqu'il faisait sa tournée tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, puisque les facteurs n'avaient pas de congé le dimanche jusqu'au milieu du XXe siècle.
Auteur de l'œuvre de génie qu'avec plaisir nous contemplons, ô dis-nous par quelle magie tu fis ce que nous admirons.
Je crois qu'on est tous à la recherche du facteur. Il nous a laissé une multitude de petits indices pour essayer de le comprendre, mais il n'a laissé que peu d'images, il n'a pas laissé de journal intime, il n'a pas laissé d'enregistrement, on ne connaît pas sa voix. Donc on est tous à la recherche du facteur et on reconstruit tous à notre manière le facteur. Et la difficulté pour l'historien, c'est d'essayer justement d'en dresser un portrait qui soit historiquement fidèle à son époque, à son environnement et à son milieu.
Il y a quelques années, s'est tenu à Au Trive un congrès très curieux. Alors, à l'époque, j'étais déjà correspondant de presse pour le journal local Dauphiné Libéré et j'ai assisté à cette rencontre. Imaginez la scène. Dans une salle, il y avait réuni 43 psychiatres professionnels. Et leur but, ils ont passé d'ailleurs la journée, c'était de faire l'analyse complète de Ferdinand Cheval. Donc ils ont décortiqué Cheval avec toute leur science psychanalytique pour savoir pourquoi il avait construit le palais. Et chacun y allait de ses idées, quoi. Et à la fin de la journée, complètement épuisés, ils ont dit de toute façon, ce palais idéal, il était obligé de le faire. Tout ce qu'il y avait en lui, de rêve, de vision, il fallait qu'il le réalise matériellement. Et voyez, les psychanalystes, malgré toute leur science, n'ont pas vraiment réussi à le mettre à nu. Le facteur cheval restera aussi quand même avec une bonne part de mystère. De plus, cet homme avait une résistance au travail absolument exceptionnelle. D'ailleurs, on le voit sur les photos. Il est sec comme un coup de trique, pas un poil de graisse. Mais ce qui est amusant, quand on consulte son livret militaire, c'est qu'il a été déclaré donc inapte au service militaire, armé, pour faiblesse de constitution, et glande au cou. C'est écrit noir sur blanc dans son livret militaire. Bon, il devait avoir une petite malformation au cou, ce qui n'avait pas échappé donc au médecin de l'armée qui l'a examiné. Alors avouez que pour un réformé de l'armée, franchement, lui qui a travaillé dur jusqu'à 86 ans, eh bien franchement, il faut le faire.
De passer sa vie à des cailloux. Drôle de construction que l'on trouvait de travers. Tous les gens se moquent et d'un air sévère.
Et là, c'est une chanson qui concerne Ferdinand Cheval.
Et alors, c'était qui le facteur Cheval ?
C'était un facteur, un homme qui était un enfant, qui est resté très longtemps enfant et qui a connu beaucoup de chagrin puisqu'il a perdu sa femme. Son fils a été élevé par quelqu'un d'autre. Après, il s'est remarié. Après, il a eu une fille. Il a perdu sa fille. Ensuite, il a perdu son fils. Voilà. Et il a construit... Parce que lui, il avait un rêve, il est allé au bout et pourtant ça demandait des efforts physiques énormes. Et il a continué longtemps alors qu'on se moquait beaucoup de lui. Mais il n'a jamais arrêté.
Et il avait 44 ans quand il a commencé.
Et est-ce que vous aviez appris son histoire à l'école ?
Non, on avait plutôt les témoignages des personnes âgées qui l'avaient côtoyé ou que leurs parents avaient côtoyé.
Et il vous disait quoi ?
Que ce truc-là, il correspondait à rien. Parce que faire un palais idéal sans un toit... Ça paraît un peu bizarre pour les gens qui sont très terriens et avec les pieds beaucoup sur terre, mais pas beaucoup dans la lune.
Comment vous appelez, madame ?
Martine.
Martine. Et la chorale, c'est le cœur des collines.
Ah. Et chaque jour qui se lève, se rapprocher un peu plus de son rêve.
On disait, c'est un fou, c'est un marteau. Même sa famille ne pouvait pas le voir. Quand j'allais à l'école, on le voyait tous les matins, ramasser ses cailloux.
C'était quelle sorte d'homme ?
Oh, il était discret, il était un peu personnel. Il fréquentait personne.
Et quand vous l'avez vu, ce monument, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Ben, étant jeune, vous savez, madame, je n'ai pas bien réalisé.
Raphaël, vous êtes guide ici, au palais ?
Oui, je suis guide au palais depuis 25 ans maintenant.
25 ans ?
Oui.
Et vous avez grandi là ?
J'ai grandi à Hauterive, je suis native d'Hauterive, voilà.
Comment vous voyez-vous ce palais quand vous étiez toute petite ?
Alors, à vrai dire, je suis native d'Hauterive, mais j'ai su que le palais idéal existait, j'avais 15 ans. Parce que dans ma famille, on ne parlait pas trop de ce lieu, de ce monument créé par un fou. C'était le Fada, c'était l'original, c'était... Voilà. Et en fait, on avait un garage dans la rue un peu plus loin, et un jour, on allait chercher notre voiture avec maman, et il y avait un bus de garé, là, dans la rue, et je dis, maman, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est comme ça que voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait le palais idéal du facteur Cheval, à Hauterive.
Comment on explique aujourd'hui qu'on voyait cet endroit comme l'œuvre d'un fou ?
Alors, on va se remettre dans le contexte de l'époque. C'était un facteur, certes, qui avait pas beaucoup de moyens, qui un jour trébuche sur une pierre, arrête de faire sa volaille et ses légumes dans son jardin pour bâtir dans son potager un palais de pierre. Ici, il disait que c'était un tas de cailloux, en fait. Parce que bon, certes, il avait un rang social puisqu'il était facteur, mais après, il ramassait des pierres qu'il entassait dans son jardin. Et pour en faire quoi, en fait ? En plus, il bâtit son palais et très vite, il montre qu'il a de la connaissance, de la culture. Or, il est fils de paysan. Cette culture, même s'il savait lire et écrire, la culture là, qu'il représente, eh ben, elle était réservée aux classes sociales aisées, comme les notaires, comme les médecins. Comme, voilà. C'est tout un amalgame de choses qui fait qu'il était pris pour un fou. Le mot « fou » pour eux n'avait pas le même sens que nous, on peut l'interpréter en voyant le palais idéal. 33 ans, c'est de la folie. C'est dans ce sens-là, je pense que là, on peut utiliser le mot fou pour ce palais idéal et pour le facteur.
N'a jamais voyagé, mais finalement, il a amené l'ensemble du monde à lui. Et le monde arrive toujours ici et vient le voir. Et il l'a mis en scène à sa façon. On a la grotte de la Vierge Marie. Il y a aussi le petit génie qui éclaire le monde. On va retrouver
la mosquée,
le temple hindou. Voilà, tout se mélange. Il y a une petite grotte là.
On va rentrer, on va se mettre à l'abri. Christophe Bonin, c'est peut-être une question compliquée, mais donc vous avez été directeur de ce palais pendant plusieurs années à partir de 2002. Vous venez aussi, vous êtes un enfant du pays, vous venez d'ici. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le palais ?
Non, pourtant, en général, on se souvient de ces premières fois. Je me souviens d'y être venu enfant. Beaucoup d'enfants venaient ici avec l'école. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mon adolescence ici. Mes copains au Trivois ne venaient pas forcément ici, surtout quand on est ado. Moi, c'est la photo qui m'a ramené ici, puisque finalement, je venais me promener avec mes boîtiers de photos et essayer de faire des images sur les formes, sur l'architecture. J'ai l'impression d'être dans un petit temple d'Angkor, là. On est en Asie, on est en Orient, on est ailleurs, avec toutes les religions, avec plein de personnages, mais comme une forme d'arche de Noé. Je disais parfois, ça me fait penser à un bateau ici. On voyage avec lui, on est embarqué, on est happé. Puis tout ça se mélange avec des formes qui, pour certaines, peuvent faire penser à des gâteaux, à des choses un peu kitsch. Il y a tout ce mélange. Il faut se dire ça, que c'est un rêve. Et puis, petit à petit, l'image m'a amené à aller plus proche de l'homme et des messages, des symboles, du pourquoi on fait ça. Et cette quête-là, finalement, moi, elle m'intéresse toujours, parce que chaque fois que je viens ici, finalement, ça me ramène à des choses essentielles de la vie. C'est-à-dire... qu'est-ce qu'on est ici ? Qu'est-ce qu'on transmet ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Cheval à chercher quelque chose. Il y a de la spiritualité dans ce lieu. Il y a de la sérénité. Il y a de l'angoisse parfois pour des gens. J'ai rencontré des personnes, assez peu, mais quelques-unes, qui m'ont dit « je me sens pas bien ici, je reste pas ». Le nom qui est resté, le Palais Idéal, c'est le bar d'Alpin Émile Roux-Parassac qui est un poète grenoblois et qui a rencontré Cheval de son vivant et qui lui avait fait un poème, hommage. Et Cheval, qui avait plutôt mis comme nom à son œuvre le temple de la nature. Alors moi, j'aime bien aussi celui-là parce qu'on parlait d'avant-gardiste. Cheval, c'est un écologiste aussi, c'est un homme de la terre, c'est un homme qui est au cœur de la nature en permanence. C'est vraiment un hommage à la nature ici et un côté sacré aussi. Et mon grand plaisir, c'est d'y venir quand il n'y a personne, c'est d'y venir seul. Mais après, d'être apaisé et de pouvoir continuer une sorte de petit voyage encore avec lui, là, juste avant de rentrer chez soi et de passer à autre chose. Voilà.
Et tout de suite sur RFI, il y a de l'eau avec Sage comme des sauvages.
C'est étonnant, comme l'eau bouge tout le temps. C'est étonnant, c'est immobile, c'est rapide et c'est lent. Sa développante est la plus raide. Sans sa volonté, ça creuse tout, ça va. C'est étonnant, comme ruisselle tous mes sentiments. Comme je bois, je crache, comme je pleure. Liquide ma peine, mon plaisir, mon malheur. Par les lèvres on rentre, les lèvres on sort. Par les lèvres, les paroles et la mort.
Voir comme toutes les blessures se ressemblent.
si proche. Écoutez, vous voyagez.
Entre la façade est et ouest, il se trouve une grande galerie de 20 mètres de longueur sur 1,50 m de largeur. Aux deux extrémités se trouve une espèce de labyrinthe. Dans cette hécatombe, vous y trouverez toutes sortes de variétés que j'ai sculptées moi-même, telles que des cèdres, éléphants, ours, bergers des Landes, cascades, toute espèce de coquillages et d'animaux. La sculpture en est si bizarre qu'on croit vivre dans un rêve.
C'est au rêve du facteur cheval que l'on continue de s'accrocher, les yeux rivés sur les façades de son palais qui, en son temps, en avait rebuté plus d'un. Douce ironie de l'histoire, aujourd'hui, dans le village de Haute-Rive, peuplé de près de 2000 habitants, sur la grande rue, la plupart des commerces se réclament du facteur et son palais. Du panier du facteur pour l'épicerie, au palais de la conduite pour l'auto-école. Au bout de cette grande rue, une maison rose aux volets turquoises affiche seulement sur sa façade, en lettres peintes, antiquité. Une boutique et maison d'hôtes que tiennent depuis près de 25 ans François Chardon et son mari, avec à l'intérieur l'autre trésor du facteur, des cartes postales.
Tiens. Bonjour Françoise.
Bonjour. Voici.
Et où est-ce que vous les avez retrouvées, ces cartes-là?
Oula, alors on les a trouvées, on fait des successions, des foires, donc on en a trouvé vraiment de partout, hein, un peu de partout. Hein. Moi j'en avais déjà de mes parents qui étaient déjà antiquaires, qui en avaient déjà gardé, parce que bon, le palais idéal évidemment interpelle depuis toujours. Donc elles sont toutes, voilà, là on voit le facteur.
Philomène. Au pied de son palais, avec sa femme Philomène. Voilà. Et certaines ont été envoyées.
Beaucoup, beaucoup, bah, la plus, toutes, hein, vraiment toutes. Hein.
Là, on voit les trois géants.
Voilà, avec les visiteurs déjà. Le facteur qui faisait visiter son palais, qui déjà de son vivant faisait visiter. Mais j'en ai vraiment. Voilà. Donc là, avec sa femme aussi. Là, regarde, avec son chien. Voilà, là, il se mettait déjà vraiment en situation, hein, sur toutes les cartes postales.
Il se met en scène au pied du palais.
Voilà, complètement.
Avec toujours son uniforme de facteur.
Oui, et sa casquette.
Nous sommes dans les années 1906-1907, et dans un village voisin d'Haute-Rive qui s'appelle le Grand Serre, situé exactement à 7 km, il y avait un habile photographe nommé Louis Charvat. Et un jour, Louis Charvat descend au palais idéal, qui n'était pas tout à fait fini, puisque le palais a été terminé en 1912. Et il dit à Cheval, dites monsieur Cheval, est-ce que je pourrais faire quelques photos de votre œuvre? Et Cheval, très fier, lui dit, bah, écoutez monsieur, ne vous gênez pas, photographiez tout ce que vous voulez. Et voilà mon Louis Charvat qui va photographier le palais idéal, avec d'ailleurs souvent sur les clichés, le facteur, avec sa femme Philomène Richaud et également son fils Cyril. Donc des photos historiques en quelque sorte, qui sont d'ailleurs parmi les plus belles, je précise en noir et blanc, hein, que l'on ait pu faire du palais. Et puis, bon, le temps passe, et un jour, deux ou trois ans après, un visiteur lui dit, dites monsieur Cheval, oh là là, qu'est-ce que vous devez ramasser comme argent? Il y a des cartes postales représentant le palais idéal dans tous les villages environnants, sauf à Haute-Rive. Et là, Cheval tombe des nues. Mais quelles cartes postales? Ah bah écoutez, ce sont des cartes postales signées Louis Charvat. Donc Louis Charvat a édité des milliers de cartes postales sans son accord. Et là, Cheval ne fait ni une ni deux. Il va porter plainte et il va la signer en justice. Et effectivement, en 1908, Louis Charvat part devant le tribunal de Valence et est condamné d'une part à détruire ses clichés et à verser des dommages d'intérêt à Ferdinand Cheval. Et donc la justice a fini par triompher, Charvat a été condamné. Mais on peut lui pardonner parce que franchement, il a fait des photos de Cheval avec toute sa famille qui sont magnifiques de chez magnifiques.
Quand le passant rêveur contemple cette enceinte où ton labeur superbe a vaincu le néant, il cherche je ne sais quelle effrayante empreinte où puisse s'étaler une main de géant. Car c'est ta récompense au sculpteur gigantesque d'avoir réalisé ton rêve surhumain. Va, tu peux bien graver ton nom à chaque fresque. Hier, c'était le labeur,
c'est la gloire demain.
À un moment, le facteur cheval demande à un journaliste de roman, si je ne me trompe pas, de faire sa biographie. Et pour ça, il lui envoie des notes. En fait, le journaliste lui répond, écoutez, vous ne pouvez pas vous exprimer comme ça. Il lui dit qu'il utilise beaucoup trop d'aphorismes par rapport au fait qu'il soit facteur rural. Voilà, donc en fait, c'est un peu un des drames du facteur, au final, c'est d'être ramené toujours à sa condition, alors qu'effectivement, il était visionnaire, il était, je ne sais pas si on peut dire lettré, parce qu'on est au début de l'école obligatoire, il sait lire, il sait écrire, mais il fait des fautes et tout ça, mais il est quand même un style qui lui est propre et qui est certainement lié à ses lectures. Donc, il y a cette personne qui, à Haute-Rive, vient comme ça produire quelque chose d'extraordinaire, mais avec une certaine difficulté, puisque le palais, à l'époque, a de nombreux détracteurs dans l'administration française du ministère de la Culture. On est dans le... Je ne vais peut-être pas le dire exactement, mais c'est à peu près ça, que le palais idéal est un ramassis d'insanité qui se mélange dans une cervelle de rustre. C'est comme ça que le palais est décrit dans certains rapports. Mais il était aussi porté par les surréalistes qui avaient déjà découvert le palais. Pablo Picasso était déjà venu, avait déjà fait ce carnet de dessins en hommage au facteur cheval. Il y a beaucoup d'artistes qui se tournent vers le facteur cheval avec cette idée de la création pure. Il est autodidacte, donc vraiment une création libérée de tout académisme. Et Malraux, outre ses détracteurs, outre ses conseillers, s'emploiera à classer le palais comme monument historique.
Qu'est-ce qu'il a dit Malraux quand en 1969 il décide de déclarer ce monument patrimoine historique ?
Malraux le classe au monument historique au titre de l'art naïf, en disant qu'actuellement il y a cet envol de l'art naïf et qu'on a la chance en France d'avoir le seul exemple d'architecture naïve et qu'il serait totalement aberrant de ne pas le mettre en valeur et de ne pas essayer de le conserver.
Au pied du belvédère, qu'il a construit pour admirer son château, avec un escalier qui monte, c'est comme une tour. Et en haut de ce belvédère, il y a un cadran solaire. C'est écrit « Chaque fois que tu me regardes, tu vois ta vie qui s'en va. Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous. C'est le cadran de la vie. »
On est sur le belvédère ?
Là, oui, sur le belvédère, donc, que le facteur a bâti spécialement pour qu'on puisse contempler son palais avec une vue d'ensemble, la façade est, en face de nous.
Qui est la première qu'il a construite ?
Oui, il a commencé par là. C'est la plus belle, on va dire. C'est la plus chargée en ornementation, c'est la plus chargée en symboles. Oui, c'est la plus belle, oui, je crois. Oui.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ?
Oui, je m'appelle donc Pierre Constant. J'ai travaillé donc sur le palais, à la restauration du palais depuis le début de la restauration, c'était en 1982. Et j'ai terminé en 2016. Le palais, il n'avait jamais été restauré. Donc il était dans son jus, quoi, et il était très 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 endommagé. C'était même assez impressionnant. On se demandait ce qu'on venait faire là et comment on allait s'y prendre. Bon, il était debout, si vous voulez. Mais toutes les ornementations, les petits personnages, les petites tourelles, ça tombait en poussière. Donc c'était une drôle de question qui se posait à nous, parce que où on reconstituait l'ensemble, et alors c'était plus l'œuvre, la patte du facteur, où on le laissait, on le consolidait, et ça devenait dans quelques années un vestige. Alors il y a les archis, des monuments historiques qui discutaient avec nous, qui donnaient des directives. Finalement, on a eu la carte blanche pour reconstituer les parties disparues, d'après photos bien sûr, et d'après les documents qu'on avait en notre possession.
Quel genre de monument vous restauriez-vous à ce moment-là ?
Ah ben c'était pas du tout ça, hein. Nous c'était la sculpture sur pierre, genre Louvre, les cathédrales de France, c'est-à-dire le statuaire 19e, très léché, vous voyez, avec les mains, avec les veines et tout. Et on arrive ici, perdu. Moi, je ne connaissais pas le palais. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, quoi,
Qu'est-ce que c'est que ça?
Et puis, on sentait de sa part, si on peut dire, une réticence dans la part du facteur. Vous voyez, partout, il y a marqué « œuvre d'un seul homme ». C'est son œuvre à lui. Intervenir derrière lui, sur sa main à lui, même pour réparer, s'il avait pu parler... Facteur Cheval. Il nous aurait dit non, 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 touche à rien, je vous interdis de tout. Allez-vous-en, allez-vous-en. Voilà, j'imagine qu'il aurait dit ça. Et finalement, je crois que c'est bien qu'on l'ait restauré, parce que sinon, sinon, il ne resterait plus grand-chose.
Comment vous le décririez à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, ce palais, on l'a sous les yeux, là?
Le décrire, hein. J'essaie de me souvenir ce que aurait pu dire le facteur. De le regarder, c'est-à-dire que le facteur disait que, quand on l'interrogeait lui, de son vivant, hein, sur sa personnalité, qui êtes-vous, on est cherché à savoir déjà, bon. Lui il disait, si vous voulez me connaître, regardez mon palais. Tout est là, il a voulu embrasser tout le, de manière très universelle, et très humaniste, toutes les religions, toute la vie.
Et du coup, il préparait sa mort.
Oui, il est préparé de manière qu'on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas, hein, ça, on ne risque pas de l'oublier. Ça, c'est réussi, par contre. Ouais.
Pour un enfant, ici, là, dans cette galerie, c'est juste magique. C'est un peu sombre, il y a des formes partout. Suivant la lumière, cette galerie, les formes changent. On a des petits rayons de lumière qui apparaissent à certains endroits dans la galerie. Il y a une sorte de magie, il faut surtout pas d'éclairage. Suivant le moment où on vient, si on vient le matin, l'après-midi, le soir... Les choses changent complètement. On peut venir des quantités de fois ici et découvrir des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues ou une forme que vous n'avez pas vue de cette manière-là, juste parce que la lumière a changé.
Cette galerie, elle est faite de moulures, d'arcs. C'est un couloir en fait en pierre, sculpté à la chaux, avec des animaux à droite et à gauche de nous, des colonnes où on voit ses poignets entremêlés, où on voit encore presque les traces des mains du facteur.
C'est vrai que c'est proche parfois de dessins que pourrait faire un enfant avec des formes qui se répètent. Et là, on se retrouve en trois dimensions avec du relief. On a les yeux qui brillent quand on est là. Je suis presque ému de ça parce que ça me rappelle plein de souvenirs et puis d'avoir envie de les partager avec mes fils un peu, que j'ai amené là, pas assez, et j'espère mes petits-enfants. Et c'est vrai que j'ai envie de les amener là, mais je me garde ce moment un peu privilégié. C'est des moments précieux. Moi, je suis toujours ébahi par ça, c'est-à-dire faire un tableau, faire quelque chose. Mais là, c'est une œuvre dans laquelle on rentre, on est à l'intérieur de l'œuvre de Cheval. Et c'est ce qu'il voulait lui, d'ailleurs, parce qu'il voulait faire corps avec cette œuvre. Il voulait être enterré là, à la mode des rois pharaons, disait-il, dans le tombeau qu'il a construit, qu'on peut voir, comme des sarcophages d'ailleurs. Et bon, ça n'a pas été possible parce qu'on ne peut pas se faire enterrer sur un domaine privé, un lieu privé.
On lui a refusé.
Et je pense que c'est sûrement été un grand regret, puisque c'est une manière de faire corps avec son œuvre, un grand mausolée en fait.
Je me permets encore de vous dire qu'après avoir terminé mon palais à l'âge de 77 ans et 33 ans de travail opiniâtre, je me suis trouvé encore assez courageux pour aller faire mon tombeau au cimetière de la paroisse. Là encore, j'ai travaillé 8 années de dur labeur. J'ai eu le bonheur d'avoir la santé pour achever ces tombeaux appelés le tombeau du silence et du repos sans fin à l'âge de 86 ans.
Il est vraiment à l'entrée du cimetière d'Autrive.
Oui, complètement, oui.
Il est à droite de la grille d'entrée. On voit que lui, le tombeau du silence et du repos sans fin.
ça reste ouvert. On vient n'importe quand, quand on veut.
Bon, c'est le roi d'Autrive, hein, clairement, là.
Ah oui, bah là, c'est vraiment le tombeau énorme, quoi, par rapport à toutes les tombes qui sont toutes, toutes petites. Quoi. Là, c'est... Il est vraiment majestueux, quoi. C'est vraiment l'œuvre, c'est l'aboutissement de son travail, quoi. C'est, on voit dans le décor, les détails. Enfin, c'est vraiment.
Il y a des dizaines et des dizaines d'enchevêtrements qui font penser à des serpents qui recouvrent toute la façade du caveau qu'il a sculpté lui-même.
Et alors là, j'ai lu que la voisine de tombe venait fleurir sa tombe et voyait Cheval faire son tombeau et avait peur de ses serpents. Elle lui disait « J'ai peur, Cheval, de tes serpents. » Et il lui avait dit « Du côté de ta tombe, je ne ferai pas sur la façade, je ne mettrai pas de serpent. » Et là, on peut voir, il n'y a pas de serpent de ce côté. Il a écouté sa voisine pour pas qu'elle ait peur et qu'elle puisse reposer plus tard tranquillement. Alors que tout le reste est complètement mouvementé. Torturé, vraiment.
C'est quand même l'œuvre d'un mégalo aussi, ce caveau.
Bah oui, un peu. Un peu.
Qu'est-ce qui représente pour vous le facteur Cheval, Françoise ?
Je sais pas, on a tellement toujours vécu avec. Il fait partie d'ici, du village, de nous tous, quoi, quelque part. Ouais.
Bien, ici à Autrive, au facteur Cheval, c'est ça attire des touristes. Il voulait que beaucoup de gens aient du respect pour lui et que des personnes le connaissent. Et que, parce qu'il n'avait pas trop d'amis, il n'avait vraiment pas le temps de les voir. Enfin, je ne me souviens plus, ils avaient dit à la fin quand il était mort, mais j'ai oublié.
Il est mort de vieillesse, mais il a pas eu une très belle mort.
Est-ce que c'est beau la mort ?
Non. Non, la mort, c'est... Moi, j'aime pas parce que... Déjà que moi, j'ai vu plusieurs personnes mourir dans ma famille. Hein. Si ?
Et est-ce que ici ça vous fait plutôt penser à la vie ou à la mort ?
À la vie.
Au bonheur.
Au bonheur.
Et enfin, il voulait...
La vie qu'il a passée dans ce qu'il a fait, quoi. C'est son enfin, là, enfin... Il trouvait ça... beau de mettre ça.
T'admires surtout le paysage, le ciel. En plus, c'est super beau.
Il voulait faire ça grâce à l'art. Il aimait l'art. Il aimait ce qu'il faisait. Il aimait ce qu'il a fait, voilà.
En cherchant, j'ai trouvé. 40 ans, j'ai pioché pour faire jaillir de terre ce palais des fées. Pour mon idée, mon corps a tout bravé. Le temps, la critique et les années. Ma pensée vivra avec ce rocher.
Le palais idéal du facteur Cheval, rêve de pierre et de poésie, c'était un reportage de Sarah Lefebvre. Merci à l'équipe du palais et aux habitants d'Autrive pour leur accueil. Merci à Evan et Adrien, nos guides de 8 ans et demi. Et merci à Édouard Richard pour ses lectures. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Sarah Lefebvre, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.